Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Quentin.
Alors, le médicament que vous ayez le plus consommé, le plus pris dans votre vie, c'est quoi? Mille pardons d'avance pour cette indiscrétion.
Oh, mais j'en prends pas beaucoup. Hein, donc celui que j'ai plus pris, c'est le QUVIVIQ, qui est un médicament anti-dorsia qui vient d'être approuvé aux États-Unis. En fait, qui est un médicament pour le sommeil, un somnifère, mais qui a des particularités. Il augmente la période où on rêve, donc on rêve plus, ce qui est assez fantastique. Et d'ailleurs, on ne connaît pas bien le rôle des rêves, donc c'est toujours marrant de rêver plus. Mais surtout, et aussi, il augmente les possibilités du lendemain. Il donne une meilleure journée le lendemain, avec une meilleure mémoire. On est plus en forme. Donc, c'est ça le médicament qui augmente. Le lendemain également. Donc voilà, si c'est le médicament où j'ai le plus pris, c'est probablement celui-ci.
Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Thomas Cluzel qui est en télétravail à la montagne, cofondateur de Hokin, une start-up franco-américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'univers des médicaments. Donc ma première question, comme toujours, n'était pas anodine. Le point de départ de cette idée, Thomas Cluzel, il y a à peu près 6 ans, c'est quoi? Qu'est-ce que vous
Ah ouais.
réalisez? Qu'est-ce que vous...
Bah, j'étais médecin à l'époque, Quentin, donc j'étais chef de clinique en hématologie à l'hôpital Mondor, qui est une espèce de grand hôpital dans la banlieue parisienne. Et puis, je me rendais bien compte que tous les patients étaient traités un peu de la même façon. Je traitais des patients qui avaient des lymphomes, des cancers du sang, et ils recevaient tous à peu près la même chimiothérapie. Et donc, en fait, ils ne bénéficiaient pas de ce qu'on appelle la médecine de précision, qui veut dire comment est-ce qu'on traite chacun différemment. Et en fait, je faisais de la recherche en même temps aux États-Unis sur comment est-ce qu'on pouvait essayer d'améliorer cette prise en charge personnalisée. Et je me rendais compte que les approches classiques de bioinformatique, notamment, qui sont des approches un peu linéaires, ne fonctionnaient pas. Et je me suis intéressé à d'autres approches, comme l'intelligence artificielle. Et c'est là que, par des amis de Polytechnique, j'ai rencontré Gilles Vinrib, mon cofondateur, qui était à l'époque à Normale Sup, rue d'Ulm. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, on va essayer d'appliquer l'intelligence artificielle au milieu de la médecine, avec un seul but, qui est d'améliorer la médecine de précision, mais aussi la découverte de nouveaux traitements.
L'intelligence artificielle au service de la précision, est-ce que au début, parce qu'il y a 6 ans, donc on parlait déjà d'intelligence artificielle, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, est-ce qu'au début, quand vous commencez à discuter avec certains acteurs du secteur, etc., est-ce que l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, appliquée aux médicaments, est bien vue, ou alors est-ce qu'il y a une forme de défiance ou d'hostilité?
En fait, ça a toujours été plutôt bien vu parce que c'est une nouvelle technologie. Alors, c'est une technologie qui fait deux choses. Elle va accélérer, par exemple, le diagnostic. Par exemple, un diagnostic d'une pneumonie sur une image du poumon, une radio du poumon, sera probablement automatisé. Donc, ça va accélérer, ça va même remplacer une partie de la médecine. Donc, on ne peut pas être médecin aujourd'hui et pas s'y intéresser. Mais évidemment, pour ces médecins-là, ça peut créer une certaine défiance, hein, parce que c'est un peu une menace parfois, même si c'est aussi un outil d'augmentation et de super pouvoir. Et après, il y a l'autre côté, c'est pas de... donc il y a l'accélération, puis l'autre côté, c'est l'augmentation. L'augmentation, c'est vraiment ça, donner des nouveaux super pouvoirs, pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire sans cette technologie. Par exemple, si on voit une image, on peut trouver un diagnostic. On peut dire, tiens, il y a une pneumonie sur une radio. Mais on peut pas dire si le patient va répondre à un traitement, pourquoi. Et donc, en fait, ça donne ces possibilités de prédiction. C'est vraiment des super pouvoirs pour les médecins. Donc là, les médecins sont beaucoup plus engagés. Après, ce qui est un peu compliqué dans la défiance, c'est que pour faire des nouveaux médicaments, il faut deux acteurs, l'académique, d'où vient l'innovation, et les pharma. Et en fait, il faut trouver une façon que ces deux mondes travaillent mieux ensemble. Ce qu'on essaie de faire chez Hokin, parce qu'on est vraiment en lien neutre entre les deux. Et ça, c'est pas facile parce que l'image de la pharma auprès des académiques n'est pas toujours bien évidente, et notamment au niveau des acteurs politiques. En France, il y a toujours cette espèce de snobisme à critiquer la pharma, alors que c'est de là que viennent les nouveaux traitements en particulier.
C'était oui, effectivement, c'est le terme de snobisme que j'aurais dû utiliser et non pas hostilité. Comment est-ce que on va reparler ensuite des relations que vous avez justement avec l'industrie pharmaceutique, mais votre intelligence artificielle en 6 ans, elle a évolué comment? Vous l'avez entraînée comment?
C'est une très bonne question. Parce qu'une intelligence artificielle, ça s'entraîne avec les bonnes data. Et donc, nous, on a vraiment tout de suite été sur les data de qualité et au niveau global. On a vraiment voulu entraîner nos modèles avec des data qui venaient du monde entier, les États-Unis, l'Europe, pour que ça puisse se généraliser bien et qu'il n'y ait pas de biais dans l'enregistrement des patients. Donc, en fait, au fur et à mesure, on a essayé de trouver une façon d'avoir accès aux data dans le milieu académique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des data de haute qualité qui ont plusieurs modalités, par exemple les gènes, les images, mais aussi les données cliniques. On voulait vraiment tout ça et on voulait aussi qu'il y ait des professeurs de médecine derrière qui connaissent les patients pour être sûr de la qualité de ces datas-là. Donc en fait, il fallait qu'on travaille avec les académiques. Et là, pour trouver une façon de travailler avec les centres académiques, il fallait trouver une proposition de valeur unique pour eux. Et on s'est dit, on est médecin, on est mathématicien, mais quelles sont les valeurs auxquelles on croit? On est vraiment parti de là. Et les valeurs auxquelles on croyait, c'était qu'il y a beaucoup trop de silos de recherche, les gens ne partagent pas les datas. Parce qu'aujourd'hui, les data sont une commodité comme du pétrole, échangé, vendu, data de médecine. Et nous, on s'est dit, non, on veut pas ça. On veut un monde où les data restent dans les hôpitaux. Comme ça, c'est beaucoup plus sûr. et ça respecte beaucoup mieux la confidentialité des données. Donc on a dit, on va faire un système qui nous permet d'avoir accès aux data sans qu'elles sortent des hôpitaux. Et ça, on a développé une technologie qui nous a permis de faire ça. On était vraiment les premiers en médecine à faire ça, le Federated Learning. Et c'est la raison pour laquelle Google Venture avait investi dans notre startup au tout départ, pour avoir accédé à ça. Et ça a créé beaucoup de confiance chez les médecins, chez les patients et chez les hôpitaux, chez les directeurs d'hôpitaux. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on a réussi à créer un environnement de data assez fort. Ça, c'était vraiment la première chose qui nous a permis de nous pousser vers un network de data global et très puissant. Ouais.
Donc aujourd'hui, 6 ans plus tard, Sanofi, Bristol Myers Squibb sont des grands noms de l'industrie du médicament pharmaceutique avec qui vous avez conclu des deals. Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Vous l'avez un petit peu raconté il y a quelques minutes, les coulisses de cette relation, mais comment ça se passe, quoi?
De façon très synergique, on est vraiment sur une base de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, en intelligence artificielle, tout ne fonctionne pas. Parfois, il y a des cas d'usage où ça fonctionne mieux dans une maladie et pas dans l'autre. Donc, en fait, déjà, on travaille sur une relation très fluide. On dit quand ça ne marche pas, on dit ce qu'on apprend avec eux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, on travaille avec eux pour utiliser notre plateforme d'accès à la data et de découverte de biomarqueurs grâce à l'intelligence artificielle pour les aider dans toute la chaîne de valeur du développement du médicament, de la découverte de nouvelles cibles aux essais cliniques. Et ce qui est fantastique, c'est qu'avec la même plateforme, on a réussi à faire un deal avec Sanofi sur la découverte de médicaments et de nouvelles cibles thérapeutiques en particulier, et de nouvelles combinaisons, et avec Bristol Myers Squibb sur l'amélioration des essais cliniques. Mais c'est la même plateforme, une seule plateforme. Nous, c'est ça la vision, on veut être la biotech du futur qui permet de faire toute la chaîne de valeur du patient, de la découverte de nouvelles cibles chez les patients jusqu'au déploiement par même des outils diagnostiques chez le patient, et c'est ça qu'on fait. Et donc, je pense que les pharmas ont compris notre sérieux. On croit, en anglais, on dit « we don't cut corners », on essaie de ne pas prendre de raccourcis, on apprend avec eux, mais toujours avec cet accès à l'innovation des centres académiques auxquels ils n'ont pas toujours un accès fluide autrement.
Ouais. Est-ce que la crise Covid, Thomas Clausel, pendant laquelle vous avez été très actif, vous a permis de faire vos preuves, enfin, quelque part, d'appuyer vos compétences? Est-ce que ça vous a apporté de la légitimité?
Alors, moi, j'étais aussi actif en tant que médecin. Hein. J'avais co-créé Protection Soignant avec des gens fantastiques comme Céline Lazor, Jonathan Benamou et plein d'autres.
Oui.
Je me suis aussi vachement engagé personnellement, mais avec Hawking, oui. Alors, on a fait des projets pour essayer on a vraiment travaillé de façon bénévole pour essayer d'aider à Gustave Roussy notamment à prédire la sévérité sur des scanners des patients avec du coronavirus. Donc, on a fait plein de choses, vraiment un peu tout le kit hein, utile au day-to-day hein, pour les médecins. Après, on n'a pas trouvé de nouveaux traitements pour le Covid et le champ de l'intelligence artificielle non plus. Aujourd'hui, ce qui a marché, c'était des vaccins sur des micro-RNA qui sont déployés depuis 20 ans avec des chimistes et des biologistes fantastiques qui ont réussi à optimiser ces technologies. C'est 20 ans de recherche, c'est la biologie et la médecine. Donc là, c'était important aussi de comprendre que l'intelligence artificielle a montré ses limites un peu pendant le Covid. On n'a pas découvert de façon magique un nouveau traitement. Et c'est important d'en parler aussi, de montrer ce qui fonctionne pas toujours. Et donc, je pense que c'était vraiment intéressant. Nous, on n'a pas vraiment cherché de traitement. On essayait juste d'aider parce qu'on savait qu'on n'y croyait pas, qu'on avait trouvé quelque chose de complètement révolutionnaire là-dedans. Donc, on n'a pas vraiment fait de programme spécifique, mais on a vu que des limites quand même du milieu. Et c'est un milieu qui évolue tellement vite que ce serait peut-être différent aujourd'hui. Mais voilà, c'est important de parler parce qu'il y a beaucoup d'hype dans l'intelligence artificielle. C'est important de parler de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas encore.
Vous avez parlé de dynamisme, vous avez parlé de synergie, d'entraînement aussi pour votre intelligence artificielle. Pour entraîner une intelligence artificielle, il faut des recrutements, des talents humains. Chez Hawking, vous recrutez quel type de personnalité, quel type de profil, si tant est qu'il y en ait un précis ou pas?
Non, on est vraiment pour nous l'intelligence artificielle, c'est un moyen, c'est pas une fin, c'est pas un produit. C'est-à-dire que on utilise vraiment l'intersection entre l'intelligence artificielle, la médecine, pour trouver des nouvelles découvertes. Donc c'est vraiment les deux qui comptent. C'est pour ça qu'en fait à la base, on a vraiment créé des équipes d'intelligence artificielle assez uniques. On a vraiment un grand recrutement dans les grandes écoles françaises, ainsi que des médecins. On a une équipe médicale qui est en train de se former avec Vassili Soumidis, qui est notre chief medical officer qui vient d'arriver. Donc on a vraiment pris des gens qui étaient d'abord des data scientists, des ingénieurs, des développeurs de software aussi, donc assez techniques. Et puis on a ensuite ajouté des gens qui connaissent bien la biologie, qui connaissaient bien la médecine, pour vraiment faire des découvertes au jour le jour. Mais en tout cas, le point commun de tous ces gens-là, c'est des gens optimistes, curieux et qui ont cette honnêteté intellectuelle qui est absolument dans ce milieu. Parce qu'on peut toujours trouver des choses avec la bioinformatique. Hein. Si vous donnez un ordinateur avec des gènes, ils vont tout le monde va faire des découvertes. Mais à quel point cette découverte est importante, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on a besoin de cette stimulation intellectuelle et on vient de l'académique. Donc, on a vraiment cette émulation. entre les différentes personnes.
Thomas Clauzel, vous avez vous baigné dans cet univers qui est le vôtre encore aujourd'hui depuis votre plus tendre enfance, puisque vos parents sont des chercheurs, entrepreneurs dans ce secteur. Je crois d'ailleurs que le Figaro leur a consacré un portrait il n'y a pas si longtemps que ça. Vous auriez pu faire autre chose, Thomas Clauzel, de votre vie, enfin dans le sens, est-ce que cette matière-là que vous avez exploitée, que vous exploitez encore aujourd'hui, qui est la vôtre de façon assez viscérale finalement?
Ah ouais. Non, j'aurais rien pu faire d'autre que la médecine. Enfin, je pense que le Covid a fait réaliser à tout le monde à quel point la santé est le seul capital qui a de l'importance. Hein. D'avoir traité des patients qui avaient des cancers, mais qui étaient très riches, qui avaient des jobs incroyables, et du jour au lendemain, ça reste la priorité, c'est la santé. Donc, j'ai toujours su que c'était ça qui comptait. Ça m'a aidé à relativiser l'importance du succès, l'importance de l'échec. Enfin, je sais que la santé est la seule chose qui compte. Hein. Et je ne pourrais, franchement, sincèrement, rien faire d'autre. Quoi. C'est-à-dire que je veux travailler là-dedans, je travaille là-dedans toute ma vie. Je n'exclus pas le fait de retourner à la médecine un jour. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment travailler dans l'intersection entre la médecine et les nouvelles technologies qui peuvent accélérer, qui peuvent améliorer. C'est la chose la plus importante. Et parfois, j'ai même du mal à comprendre, parce qu'en France, il n'y a pas vraiment de philanthropie sur la santé. Vous voyez, à part les Bettencourt, la fondation Bettencourt, c'est une autre question pour en parler un autre jour. Il n'y a pas comme aux États-Unis cette espèce de on donne un microscope, on investit, on donne de l'argent. Il y a vraiment une éducation à faire à tous les niveaux sociaux sur l'importance de la santé, parce que ça touche tout le monde. Hein.
Thomas Clauzel, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Vous êtes cofondateur de Hawkin. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.
Merci, à bientôt.